Merci de votre présence d'une part, et puis je vais être très très rapide sur la présentation d'Yves Jeanneret parce que vous le connaissez tous, ou presque. Parmi les presque, c'est parce qu'on a des jeunes doctorants qui sont dans la salle qui ne te connaissaient pas. C'est quasiment. On reverra ça après. Donc rapidement, Yves est donc professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Le titre même est déjà une promesse en soi. Je ne sais pas s'il faut l'analyser comme ça. Et n'est pas complètement inconnu dans cette institution, puisqu'il était directeur du GRIPIC avant moi-même et donc directeur de la recherche au CELSA avant. Donc les lieux lui sont parfaitement connus. Et puis c'est vrai que
Ils n'ont pas
nous.
encore tout à fait assez changé pour que je les reconnaisse parmi eux. Ça va bientôt venir.
Oui, c'est surtout sur l'extérieur que ça va changer. Nous continuons à entretenir des relations étroites de recherche, notamment, et puis à travers effectivement la revue Communication et Langage que vous connaissez tous et à laquelle vous êtes presque tous abonnés. Non, pas encore. Ça ne saurait tarder. Alors, on le souhaite. Donc, effectivement, c'est un long chemin que nous avons fait ensemble. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que nous travaillons et que nous dirigeons la revue Communication et Langage depuis une petite dizaine d'années. Il faudra d'ailleurs qu'on fasse un anniversaire, ça fait 10 ans pour 40 ans. Ça fait un quart, c'est pas mal, hein. Il faudrait qu'on fasse un numéro, là. Pour aller vite, on a un certain nombre de projets et d'axes, mais ce dont je voudrais surtout parler aujourd'hui, puisqu'en fait Yves vient pour ça, c'est cet ouvrage que vous avez bien entendu tous lu, Penser la trivialité, la vie triviale des êtres culturels. Et c'est de ça dont je voudrais commencer par parler et le présenter rapidement, petit quart d'heure, 20 minutes à peu près. Pour faire un tour sur les questions que pose Yves, ou en tout cas, pas peut-être sur un certain nombre de questions, mais sur la façon qu'il a de les poser. Ce qui m'intéresse donc, c'est de façon réflexive, finalement, un discours trivial sur ton écriture. Ça, c'est la rançon de la gloire, on le voit bien. Quand les gens arrivent à parler de toi avant qu'ils t'aient lu, c'est que c'est plutôt bon signe. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ce que j'entends sur tes écrits en général, c'est « Ah ouais, mais c'est vachement dense ». Eh bien justement, on va se poser la question de près parce que moi je crois que c'est une question de fond. J'aimerais revenir sur cette assertion car je crois qu'en fait elle repose sur deux opinions au moins qui sont toutes deux liées à la question de la lecture. La première est double. D'une part, en fait, en ce qu'elle convoque les modalités de lecture qu'elle se donne d'ordinaire, et d'autre part qu'elle repose sur la croyance paradoxale dans la transparence du texte. Et ça, je crois que c'est des questions qu'il faut arriver à se formuler. Alors, les modalités de lecture, tout d'abord, sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire, mais j'irai juste à l'essentiel, ce qui m'intéresse par rapport à ton livre. Ces modalités de lecture sont bien souvent établies selon une très étanche relation à la rentabilité de l'activité de lecture elle-même, et des modalités de lecture, en fait, qui, en outre, sont en permanence forcées par le temps de lecture. Avons-nous le temps de lire? Mais dans quelles conditions, lisons-nous et pourquoi le faisons-nous? C'est des questions qui sont en apparence bêtes, simples, triviales, pas dans le même sens, mais qui, en fait, sont essentielles. La question de fond, pourquoi nous lisons, est bien sûr liée à des objectifs, à ces objectifs et à ces modalités. Est-ce pour accrocher une information de plus à notre palmarès de sociabilité? Est-ce pour travailler? Et comment? Parce que le comment va être important. Ou est-ce plus radicalement pour être ou pour nous transformer, comme le suggérait Hugues de Saint-Victor? Est-ce pour faire avancer la connaissance? Au-delà de ces questions de fond, il y a également à prendre en compte la surprenante croyance en la transparence des textes. Comme si le texte n'était finalement rien d'autre que la révélation attendue du lecteur, l'exact opposé d'un miroir sans teint, comme si le texte finalement ne résistait pas, comme s'il pouvait se donner à lire dans la facilité du même, et être consommé sans effort. Or, ce que j'aimerais simplement rappeler ici à l'initial, c'est que la lecture, comme l'écriture, est un travail, et un travail aussi, et avant tout peut-être. La lecture est la transformation de quelque chose, jugé à un moment ou un autre d'opaque, éventuellement, en quelque chose de lumineux ou au moins d'éclairant. Il y a de très belles images à ce sujet chez Bachelard. Mais, insistons, cette transformation est avant tout un travail. Je suis en fait assez effrayé de voir, y compris chez nous, le peu de crédit que l'on accorde à cette activité double qu'est la lettrure, pour reprendre ce terme médiéval, cette activité de lecture et d'écriture, effrayé car il s'agit bien d'un impensé radical de notre travail, de notre pratique de travail, de notre pratique professionnelle. Certes, ça n'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui, quoique, si on y réfléchit bien, on verra que nous sommes au cœur de notre discipline. Il faudra bien qu'un jour on y revienne, car en fait, la recherche dans notre discipline, comme dans l'ensemble des sciences anthroposociales, et là je remercie Yves du coup du passage qu'il a fait entre Jean-Michel Berthelot et nous, parce que ça a été un moment important. Ce terme de Jean-Michel Berthelot que je trouve extrêmement efficace finalement et précis. Et donc, dans toutes les sciences anthroposociales, notre savoir se constitue précisément et presque exclusivement, dirais-je, à partir de cette activité singulière, en partie double, du lire et de l'écrire. Le fait que l'on n'accorde qu'un crédit relativement relatif à la valeur travail de la lecture, le fait que l'on considère le temps de lecture comme un temps qui doit être directement rentabilisé, tout cela nous empêche de lire l'écriture dans sa spécificité, et c'est bien entendu là que j'ai envie d'arriver. Ça ne plaide pas, bien entendu, une telle attitude, en faveur des textes qui résistent dans tous les sens du terme. J'y reviens à l'instant parce que je voudrais faire 2-3 points là-dessus, mais je crois beaucoup en la relation du sens à la forme, et ce n'est pas pour rien que j'ai commencé là-dessus, parce que cette relation que Roubaud appelle fort justement le sens formel, et au fond, si on y pense et si on y réfléchit un peu, c'est bien de ça dont il s'agit. Car tout ce que tu montres repose sur un travail de l'écriture, de la lecture, et c'est le cœur même de la trivialité, me semble-t-il. Alors, la seconde opinion, parce que je vous en avais annoncé deux, la seconde opinion qui ferait de ton texte un texte soi-disant difficile d'abord à lire repose de façon plus évidente sur ta propre pratique d'écriture et sur les visées de ton travail. Et c'est de cela que j'aimerais parler désormais pour montrer en quoi il ne me semble pas qu'il en soit ainsi. Pour peu, d'une part, qu'on se donne la peine de le lire, bien sûr, mais qu'on en prenne aussi le temps. Et là, il suffit d'accepter que ton livre livre plus qu'annoncé dans l'emballage. Et effectivement, si je m'en tiens au titre, je serai rapidement insatisfait parce que le livre m'en donne beaucoup plus. Ce qui fait la densité de ce livre, c'est la pluralité des projets. Et j'en vois au moins trois, et ça n'est pas rien. Il y en a d'autres qui ont fait une trinité, mais ils n'ont pas fait aussi bien peut-être. En te lisant, je me suis dit que tu tissais dans ce livre au moins trois projets distincts, parfaitement cohérents, mais qui réclament chacun leur modalité d'écriture. Et c'est précisément cette polyphonie énonciative qui fait de ce texte, au point de tissage complexe, un texte qui mérite d'être lu avec tranquillité et avec un peu de temps. Le premier projet, eh bien ma foi, il consiste à faire un livre sur la trivialité. C'est le sujet le plus évident. Toute l'énonciation éditoriale l'annonce, le titre, le sous-titre, la quatrième de couverture, etc. C'est bien un texte qui répond à son titre. Dans notre culture livresque, la promesse s'affiche clairement et tu y réponds tout aussi nettement au fil des chapitres. La trame est claire, tu donnes une définition assez claire. Bon, il y a plusieurs endroits, mais il y en a une que j'aime bien parce qu'elle est en page 49. De ton objet, ton projet. Or, dis-tu, ce qui est en jeu avec les pratiques triviales, c'est-à-dire la circulation concrète d'objets réels, saisis par des pratiques et des interprétations, exige, etc. Là, nous avons un condensé extrêmement clair et précis, me semble-t-il, de la démarche. Le deuxième projet, ce deuxième projet n'est pas affiché dans l'appareil textuel, paratextuel du livre. En revanche, il se dégage peu à peu des pages, et en te lisant, je me suis dit, tiens, En fait, voilà l'accroche la plus intéressante du bouquin. Et j'étais content parce que finalement, je me disais, je vais avoir quelque chose d'intelligent à dire. Je tenais un fil effectivement intéressant à dénouer. Mais en fait, c'était sans compter sur ta propre réflexivité. Tu nous as fait effectivement un bel effet de dialogisme interne, pour parler comme Bakhtine. Car ce que je découvrais au fil de la lecture, tu t'es donné la peine de l'exposer de manière extrêmement claire en conclusion. De fait, c'est bien un projet disciplinaire que tu ambitionnes à travers cet ouvrage, et ce projet dépasse de loin la seule rédaction d'un traité sur la trivialité. Alors, juste une petite citation, si j'arrive à retrouver la bonne. L'ambition d'une telle réflexion est malgré tout assez grande. J'aime le malgré tout. Elle est de participer à la construction conceptuelle d'un champ de recherche et même de proposer quelques efforts d'exigence dans cette construction. Il me semble, écris-tu, et je ne suis pas le seul, que l'institution intellectuelle des sciences de l'information et de la communication mérite d'être affirmée dans un moment de développement accéléré des rapports de pouvoir et des occupations territoriales. Il ne suffit pas de créer des réseaux et des instituts pour faire exister un projet scientifique. Il faut travailler, c'est-à-dire essayer de donner un contenu précis aux catégories structurantes d'une discipline. On ne saurait être plus clair, on en reparlera probablement en route. Donc voici le deuxième projet. Et ce projet disciplinaire se traduit aussi et avant tout peut-être par sa pratique d'écriture. Tiens, par la mise en texte qui lui est propre, avec ce constant souci qui est le tien de discuter la théorie de l'autre, de te positionner clairement par rapport à l'altérité théorique, souci traduit dans la pratique de la citation, citations qui sont longues, présentées, argumentées, qui prennent systématiquement en compte les désaccords, plus qu'ils ne les effacent, afin de les rendre heuristiques. Or, ça, nécessairement, ça se traduit pour le lecteur par le fait de suivre des autres au pluriel et de les suivre non pas uniquement dans ton parcours à toi, mais dans les leurs, et d'entrer en dialogue avec l'ensemble de la discipline. D'où peut-être effectivement une réelle difficulté de connaissance et d'appréhension de l'ensemble du champ. Je ne soulignerai que les grandes caractéristiques textuelles de ce projet disciplinaire qui sont autant de postures intellectuelles, me semble-t-il. Le fait, d'une part, de situer ton propos par rapport aux autres démarches en te plaçant sur un plan historique et théorique, ainsi, dans un premier temps, du projet médiologique, extrêmement bien décrit, du projet sémiologique, par exemple, puis du positionnement par rapport, pardon, aux disciplines de l'archive et de l'héritage de Foucault. Nos trois temps fondamentaux qui sont à l'initiale de l'ouvrage. Ensuite, de positionner systématiquement ta démarche dans les sciences de l'information communication et de poser les cycles dans le paysage des sciences anthroposociales, pour reprendre à nouveau le terme de Jean-Michel Berthelot. Au fond, tu définis une posture épistémologique qui, en permanence, se situe en histoire et en discipline. Il y a derrière la quête d'une identité scientifique claire, quête qui ne peut se faire qu'au bénéfice de l'ensemble de la communauté, et c'est, de mon point de vue, un acquis fondamental de cet ouvrage. Enfin, tu proposes une posture méthodologique, je vous renvoie à la page 227 pour ceux qui ont l'ouvrage sous les mains, à travers ta démarche d'écriture même, démarche que tu résumes en quatre points, une visée gnoséologique, c'est-à-dire individualiser l'objet par rapport à d'autres objets existants, qui permet de faire effectivement des distinguos très clairs, une discussion épistémologique, une latitude méthodologique et une réflexivité politique. Je vous renvoie à la page 232 notamment pour avoir un aperçu rapide. Et bien entendu, ça, je te le laisserai déployer à ton tour. J'en voudrais y venir maintenant au troisième projet, que tisse, me semble-t-il, sans que ce soit le dernier, du reste, si on faisait une analyse plus fine de ton travail. Et ce troisième projet, au risque de surprendre, je le qualifierais d'autobiographique. Projet autobiographique à travers l'écriture, d'une part, et projet autobiographique à travers la posture. Et là, je prends une vieille thèse déployée par ailleurs à partir de Queneau, que les grands textes et les grandes questions repose souvent sur des leviers biographiques. Mais bon, ça aussi, tu l'as. En fait, quand j'avais noté ça au fil de ta lecture, je me suis aperçu qu'en page 218, tu coupais à nouveau l'herbe sous les pieds, puisque tu l'exprimais d'une manière très très claire, à propos de la figure auctoriale et des intimes. Alors, c'est en page 218. Finalement, tu avais déjà tout dit, je me suis fait avoir à deux reprises.
Il n'en est rien.
Je vais reprendre ce passage parce que je le crois particulièrement intéressant. La figure de l'auteur tient beaucoup à un certain geste qui indique une direction. Mais l'auteur n'est pas un voyageur sans bagage. La figure auctoriale tiendra donc à l'itinéraire, mais aussi aux impedimenta, selon le terme qu'employaient les Romains pour désigner l'équipement qui, nous permettant de voyager, se prend aussi dans nos pieds. Je vous laisse réfléchir à cette citation parce qu'elle mérite d'être reprise. Autobiographie donc, à travers l'écriture, ton travail l'est en ce que tu reprends le travail de tes doctorants, de ceux que tu as suivis, lus, entendus dans les jurys. Et là, on mesure le chemin que tu as parcouru dans la discipline, que l'on retrace en filigrane derrière tous ces exemples défendus avec courage. J'y reviens à propos de la posture. Ce que tu donnes à lire, c'est un subtil tissage croisé entre les thématiques de recherche, tes thématiques de recherche que tu mènes depuis un certain nombre d'années, et celles des étudiants que tu as suivis, entre les collaborations que tu as nouées au fil des programmes de recherche collectifs et de tes propres travaux. Je songe notamment qu'on voit au fil de l'ouvrage scander un rythme particulier en profondeur. Je songe bien entendu à Romain Rolland, à la vulgarisation scientifique, à l'affaire Sokal, par exemple, qui tisse également un fil de vie à travers cet ouvrage. Finalement, le parcours d'un chercheur. Cette remarque de sens formel, tu construis à partir des autres, tu construis en posture triviale, au carrefour, en somme. Mais ça se paye au prix de la complexité, car tu dois venir sur le terrain des autres et intégrer le terrain des autres dans ton propre parcours d'écriture, et le lecteur doit à son tour faire ce voyage. C'est-à-dire, comme tu l'écris, travailler. Autobiographique à travers l'écriture, mais également à travers la posture. Car ça n'a rien d'évident dans la posture académique actuelle, comme la posture académique passée, de citer ses étudiants, de citer ses doctorants avec attention, avec précision et en faisant remonter les thèses fortes qu'il déploie. C'est un choix politique, la marque d'un engagement social dans la communauté scientifique. Je crois aussi que ces citations sont la marque non pas d'une humilité feinte, mais d'une intelligence attentive. Car c'est bien de vous, et là je change effectivement d'adresse, c'est à vous et aux doctorants que je pense, c'est bien de vous, pour bonne partie, que nous tenons nos savoirs, mais c'est également sur vous que nous construisons l'avenir. Rares sont les essais théoriques d'un professeur de renommée, allez, on peut le dire, hein, l'exemple le montre assez bien, asseyant la marque de leur savoir de telle façon sur le travail de leurs étudiants, en les donnant à lire en tant que tels, en les valorisant, en leur donnant au sens propre du terme quand tu le montres dans ton cinquième chapitre, en leur donnant de la valeur. Rares sont les prédécesseurs en la matière, je pense, je n'en ai connu qu'un, regretté. C'était Gérard Blanchard qui avait fait ça pour son travail de thèse sur la sémiologie de la typographie, où il avait intégré l'ensemble du travail de ses étudiants. Autrement dit, et c'est là où je voulais en venir, on l'aura compris, c'est bien trois projets distincts tissés en commun, trois projets distincts qui se traduisent à travers trois modalités d'écriture distinctes, spécifiques, mais qui sont noués en une chaîne et une trame pour faire un seul et même texte. Trois projets dont l'écriture ambitionne la mise en situation d'une discipline dans son panorama historique et scientifique, qui ambitionne de faire un panorama de la culture triviale, qui ambitionne de proposer un avenir à une discipline pour œuvrer politiquement à partir d'une analyse épistémologique. Tu proposes un projet en 7 points, que je te laisserai commenter, bien entendu. Voilà, c'est de cette écriture parfaitement tissée, me semble-t-il, à partir de 3 trames principales qui fait la densité du texte, du tissu, dont tu pourrais peut-être nous dire 2 mots maintenant.